VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h à Garo au Mali. Bonjour à tous. Trois gendarmes maliens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi près de Mopti, dans le centre du pays, par des djihadistes présumés. Confirmant l'information, un responsable de la police locale a affirmé que les trois gendarmes étaient tombés dans une embuscade. Ils sont allés dans une zone qui est difficile d'accès, a indiqué cette source policière. Et toujours au Mali, à l'issue d'une réunion à Alger, le comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a déploré la lenteur de la mise en œuvre de cet accord. Arzuma Compaoré.
Les trois parties signataires de l'accord dit d'Alger étaient représentées à cette réunion. Le gouvernement malien, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme et tous les membres de la médiation, dont Mahama Saleh Anadif, nouveau chef de la MINUSMA, devaient faire le point 6 mois après la signature de l'accord de paix malien. Un comité de suivi dirigé par l'Algérie a relevé les lenteurs dans la mise en œuvre d'engagements clés, mais s'est félicité de la cessation des hostilités. Il a rappelé la responsabilité de Bamako et le rôle crucial des autres parties signataires. Le comité a fait état de sa préoccupation face à la persistance des attaques terroristes et criminelles visant les forces maliennes, les forces internationales et la population civile.
Et 4 jours après l'attaque terroriste de Ouagadougou au Burkina Faso, de nombreuses questions sont sans réponse. Le nombre d'assaillants reste un mystère. Alors qu'on a cru que la cible principale était l'hôtel Splendid et qu'il a concentré l'essentiel de l'attention médiatique et même des forces de sécurité pendant l'attaque, le bilan montre que c'est le café-restaurant Cappuccino qui a été le théâtre le plus sanglant. 26 des 30 personnes tuées l'ont été au Cappuccino, selon une source proche de l'enquête qui précise que 17 personnes étaient à l'intérieur de l'établissement et 9 sur la terrasse.
VOA Afrique en direct de Washington.
Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU quitte New York ce soir et sera à destination du Burundi. Les précisions, Timothée Donangmaï.
Conduite par la représentante des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, et l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, la délégation tentera de relancer le dialogue entre les parties rivales burundaises. Pour le vice-secrétaire général de l'ONU, Yann Eliasson, cette visite du Conseil de sécurité à Bujumbura est de la plus grande importance. L'émissaire spécial onusien pour le Burundi, Jamal Ben Omar, est en contact avec les membres du Conseil et l'ONU maintient un contact étroit avec l'Union africaine et la communauté est-africaine, compte tenu de la situation, a-t-il expliqué. Nous notons des signes très préoccupants sur le terrain et une certaine nervosité au Rwanda est aussi source de préoccupation. Ce qui ne doit pas arriver au Burundi, c'est que ce conflit passe d'une phase politique à une phase ethnique, a déclaré Yann Eliasson, avertissant que l'élément ethnique serait beaucoup plus difficile à contrôler.
Le braconnage de la faune africaine au centre de préoccupation de Washington, la ministre américaine des Affaires intérieures et des Ressources naturelles, Sally Jewell, entame jeudi une tournée africaine pour dénoncer le trafic d'espèces protégées. Eddie Sango.
Avant cette visite qui la mènera au Gabon, au Kenya ainsi qu'en Afrique du Sud, Mme Jewell a expliqué à la presse la décision des autorités américaines d'interdire l'importation des trophées des lions et d'éléphants, particulièrement du Zimbabwe. La direction des eaux et forêts des États-Unis ne pense pas que des mesures adéquates soient en place dans ces pays pour les efforts de conservation. C'est la position que nous avons adoptée. Contrairement au Zimbabwe, la Namibie dispose de telles mesures, a précisé Mme Jewell, ajoutant qu'il est important pour les pays de travailler avec les États-Unis et les communautés locales à cette fin. Les gouvernements zimbabwéens et les opérateurs touristiques de son pays disent pour leur part que l'interdiction de l'importation des trophées affecte négativement les revenus nationaux du Zimbabwe.
En République démocratique du Congo, projection du documentaire L'homme qui répare les femmes à la hall de la Gombe à Kinshasa. Le film doit être diffusé ensuite à Bukavu jeudi, puis dimanche à Lubumbashi. C'est un reportage de Cyril Milando de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Dès 17h, la salle Brel du Centre Wallonie-Bruxelles accueille petit à petit ses invités. Objectif, voir le film dédié au travail du docteur Denis Mukwege. Belinda Kabango est curieuse de voir ce film.
D'abord le nom du réalisateur et puis l'intitulé du film, L'homme qui répare les femmes. Ça sort pas de l'ordinaire, hein. C'est un film qui parle du Congo. C'est un film dans lequel les femmes sont mises en exergue, donc j'aimerais bien regarder, voir à quoi ça va ressembler. J'aimerais voir la projection avec les réalisateurs à côté.
D'après ceux qui l'ont regardé, c'est un film interdit aux cardiaques. Est-ce que toi, tu t'es préparé moralement pour regarder ce film?
Disons que dans la vie, on a déjà eu à supporter plus que ça. Donc, ça ne va pas nous offenser outre mesure. C'est une mise en scène des choses qui ont été avérées. Et puis le fait qu'on ait interdit ça avant, c'est ce qui crée le buzz justement.
Des étrangers vivant à Kinshasa sont également intéressés.
Je m'appelle Sophie, française.
Et qu'est-ce qui vous amène à venir regarder ce film?
Ça fait longtemps que je voudrais le voir parce que je travaille en RDC sur des programmes de prise en charge de femmes victimes de violences. Donc on est complètement dans le cœur du sujet de ce qu'on fait à Kinshasa, donc ça m'intéresse de voir ce film. Puis je connais Thierry Michel, j'ai déjà vu d'autres réalisations de lui et je pense que ça doit être très intéressant.
Il y a certaines personnes qui ont regardé ces documentaires, ont dit qu'il est interdit aux cardiaques. Est-ce que vous vous êtes préparé moralement?
Écoutez, comme je travaille dans la violence basée sur le genre, oui, je suis complètement préparée.
Les réalisateurs belges Thierry Michel regrettent que ce film soit projeté bien trop tard en RDC, mais il s'est dit heureux.
Le Congo est un pays extrêmement étonnant, imprévisible, où les situations changent comme le temps ici. Un jour, le matin, il fait beau, le soir, il y a la tempête ou l'orage. En tout cas, toute décision peut être évoquée et on peut revenir sur une décision si on estime qu'elle est erronée. Donc j'en suis très heureux.
Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas présenté ce film plus tôt?
Oui, bien sûr, puisqu'il a été présenté dans, je ne sais pas combien, 25 pays dans le monde, peut-être même plus. Il a déjà eu 10 prix internationaux. Ça va de l'Amérique latine à l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et aussi 9 pays africains ont déjà vu et débattu du film. Donc je suis un peu triste que ce soit le Congo qui soit un peu la queue du peloton et qui voit ce film après tous les autres pays africains, alors que ce film parle d'abord d'une histoire de Congolais pour les Congolais. Mais je suis très heureux qu'aujourd'hui on puisse faire ce débat, il n'est jamais trop tard.
Ce film sera projeté ce jeudi à Bukavu. Il le sera dimanche et lundi à Lubumbashi. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Le groupe djihadiste État islamique a libéré 270 des 14 civils qu'il a enlevés la semaine dernière à Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie, rapporte aujourd'hui une ONG. Ces civils ont été enlevés à El Beglié, banlieue proche de Deir ez-Zor dans l'est et dans d'autres secteurs alentours, avant d'être emmenés dans des régions sous le contrôle des djihadistes dans l'ouest de la province du même nom, ainsi que dans la province voisine de Raqqa, le fief de l'État islamique. Le groupe djihadiste détient encore 130 civils, essentiellement des jeunes et des hommes adultes qui sont toujours interrogés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le premier ministre libéral canadien Justin Trudeau est accusé de manquer de cohérence en politique étrangère après la mort de 7 Canadiens dans les attentats de Jakarta et de Ouagadougou, le pire bilan pour le pays dans les attaques depuis le 11 septembre 2001. En poste depuis 3 mois, le premier ministre arrive au forum de Davos en Suisse en étant accusé chez lui d'avoir été écarté de la communauté internationale pour avoir voulu retirer ses avions engagés dans les frappes contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Le Canada est absent de la réunion ce mercredi à Paris des ministres de la Défense des 7 principaux pays de la coalition internationale contre l'organisation djihadiste, la France, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué aujourd'hui l'attaque d'une université à Charsada dans le nord-ouest du pays. L'attaque a fait au moins 21 morts ce matin. Nos kamikazes ont mené l'attaque contre l'université de Bashakan. Aujourd'hui, a déclaré par téléphone à l'agence France Presse un commandant des insurgés, Omar Mansour, depuis un lieu inconnu. Et puis pour terminer, Israël a rouvert partiellement aujourd'hui l'accès des colonies de Cisjordanie occupées à des milliers de Palestiniens qui y travaillent après leur en avoir fermé les portes suite à deux attaques, dont une meurtrière. Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que plusieurs milliers de travailleurs palestiniens pourraient à nouveau accéder à des colonies sans préciser lesquelles. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.